Comment est-il mathématiquement possible de gagner plus de 200 000, voire 300 000 dollars par an, de gérer des budgets de plusieurs dizaines de millions au bureau et de se retrouver simultanément au bord de la faillite personnelle absolue à la maison?
Ouais, c'est un paradoxe qui donne le vertige, clairement.
Ah, ça, c'est sûr. Et c'est exactement ce qu'on appelle le martyr à haut revenu. On a tous en tête cette image, vous avez cette image d'Épinal du père de famille hyper dévoué.
Le cliché parfait, ouais.
Voilà, celui qui travaille 80 heures par semaine, qui conduit un véhicule cabossé, qui tient avec du ruban adhésif le fameux duct tape, juste pour payer les vacances luxueuses du reste de la famille.
Et qui encaisse toute cette pression dans un silence quasi religieux, bien sûr.
C'est ça. Et notre société, elle adore cette figure. Elle applaudit cette abnégation totale, comme si c'était héroïque. Mais aujourd'hui, on va complètement pulvériser cette idée. Bon, décortiquons tout ça.
Je suis prêt.
L'objectif de notre exploration d'aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, c'est de comprendre la mécanique interne de ce piège. On s'appuie exclusivement sur une source fascinante qui s'intitule The Oxygen Mask, Ending the High Earner Martyr Trap. Et la mission, c'est de voir pourquoi ce sacrifice permanent n'a absolument rien d'héroïque. En fait, c'est un danger critique.
Absolument. C'est un sujet fondamental, parce que ça expose une faille structurelle majeure dans la psychologie du succès.
Une faille structurelle, c'est-à-dire...
Eh bien, la thèse centrale du texte avance que, pour ces professionnels ultra-performants, je parle des directeurs, des entrepreneurs, des cadres supérieurs, l'instinct de protection familiale se déforme complètement. Ça devient presque pathologique, en fait.
Ah ouais, carrément pathologique.
Oui, parce qu'en ingénierie, ou disons en architecture informatique, il y a un concept qu'on appelle le single point of failure, donc le point de défaillance unique. C'est le composant solitaire dont dépend la survie de tout un système.
Et s'il lâche, tout s'effondre.
Exactement. S'il cède, ça provoque un effondrement systémique global. Donc penser qu'on protège un foyer en ignorant totalement ses propres besoins de base, c'est une erreur de calcul colossale. Ce n'est pas de la protection, c'est la création volontaire d'une vulnérabilité maximale.
C'est un changement d'angle super intéressant. Et je précise d'emblée pour notre audience que même si cette analyse cible surtout les hauts revenus, cette dynamique, elle concerne vraiment quiconque porte de lourdes responsabilités, quoi.
Ouais, toute personne qui ressent ce besoin viscéral de tout absorber.
Voilà. Alors pour comprendre comment une personne intelligente, en arrive à créer cette vulnérabilité, il faut d'abord regarder comment la mentalité du bureau s'infiltre jusque dans le salon. Comment s'opère cette mutation au juste?
Alors c'est un transfert psychologique qui est à la fois direct et très insidieux. Ces individus, ils ont forgé toute leur carrière sur une capacité bien précise, absorber les chocs.
Ouais, c'est leur métier dans le fond.
Tout à fait. Leur succès repose sur leur aptitude à gérer des crises complexes, à rassurer des actionnaires paniqués et à filtrer le stress pour que leurs équipes puissent bosser sereinement. C'est littéralement sur leur fiche de poste.
D'accord, mais le problème, j'imagine, c'est quand ils rentrent chez eux.
C'est ça. Le problème survient quand cet individu tourne la clé dans la serrure de sa maison. Le logiciel mental ne se met pas en veille, du coup. Le cadre supérieur se dit un truc du genre: je suis le leader ici aussi. C'est mon rôle d'encaisser les problèmes financiers, les angoisses, pour que ma famille ne ressente aucune secousse.
Ah, et c'est exactement là qu'on glisse dans ce que la source nomme le complexe du martyr. Ce qui, au départ, est un simple effort, ça devient la fondation même de leur identité.
C'est ça devient identitaire.
Ce n'est plus juste une décision de faire des heures sup, c'est la croyance que leur valeur humaine se mesure uniquement au volume de souffrance qu'ils peuvent endurer pour les autres.
Voilà, c'est une déformation complète de l'estime de soi.
J'ai une métaphore en tête pour illustrer ça. C'est un peu comme, vous savez, utiliser un smartphone avec des applications très gourmandes en énergie qui tournent en arrière-plan.
Ouais, je vois très bien.
On agit comme si on était constamment branché sur secteur, avec des réserves infinies, alors qu'en réalité, la batterie est à 1%. Et on ignore toutes les alertes rouges qui clignotent sur l'écran.
Ce qui est fascinant ici, c'est la justesse de cette image pour décrire notre métabolisme émotionnel. Parce que la fausse prémisse sur laquelle s'appuie ce complexe du martyr, c'est l'illusion d'une réserve de capital infinie. Mais la physiologie, tout comme la psychologie, elles ont des limites strictes, quoi.
Et quand on les dépasse, ça casse.
Voilà, l'individu puise dans ses propres fonds jusqu'à la liquidation totale, et le résultat qui est documenté dans ces cas-là, il est catastrophique. Contrairement à ce qu'on pense, on ne crée pas un foyer heureux et insouciant,
On crée quoi alors?
On crée un climat d'anxiété sévère. On devient un pourvoyeur rongé par un ressentiment silencieux et on s'oriente tout droit vers un burn-out dévastateur.
Et le plus effrayant là-dedans, et c'est vraiment la partie la plus contre-intuitive de la source, c'est que ce burn-out ne reste pas confiné dans la tête ou dans le dossier médical de la personne.
Non, il déborde largement.
Ouais, il se matérialise de façon spectaculaire, directement sur les relevés bancaires personnels. Ce qui nous amène à ce fameux paradoxe financier des hauts revenus.
Ah, le paradoxe financier, c'est le cœur du problème.
Mais oui, on parle de personnes qui dégagent des revenus annuels massifs. La source parle de plus de 200 000 dollars. Et qui ont pourtant la sensation de se noyer financièrement chaque mois.
C'est absurde en apparence.
Mais totalement. Comment quelqu'un qui a l'intelligence stratégique pour gérer les opérations d'une multinationale peut se retrouver au bord du gouffre pour gérer son propre budget? Ça n'a pas de sens.
Si on relie ça au mécanisme de l'industrie du crédit, cette absurdité devient d'une logique terrifiante en fait.
Terrifiante comment?
Eh bien, l'incompétence technique n'y est pour rien. Le problème central, c'est une paralysie totale de la capacité à imposer des limites. Au bureau, ce cadre dirigeant, il est encadré, n'est-ce pas?
Oui, il a des auditeurs, un conseil d'administration.
C'est ça, des protocoles de gestion des risques qui l'obligent à dire non aux projets toxiques. Mais dans sa sphère personnelle, rongé par ce besoin d'être le pourvoyeur infaillible, il perd totalement l'usage de ce mot.
Il ne sait plus dire non.
Plus du tout. Il va accumuler les dettes pour financer la maison de la belle-famille, payer des écoles privées hors de prix ou contracter de nouveaux emprunts pour maintenir un train de vie qui valide son succès aux yeux du monde.
D'accord, l'individu ne sait plus dire non à son entourage. Mais attendez, la banque, elle devrait jouer son rôle de garde-fou, non?
On pourrait le penser, ouais.
Bah oui, normalement, quand un ménage s'endette trop, le système financier bloque l'accès au crédit. Pourquoi ces barrières n'existent pas pour eux?
C'est là que le piège algorithmique se referme. Les systèmes bancaires se basent massivement sur les flux entrants, le fameux taux d'endettement. Quand un salaire brut mensuel est astronomique, l'algorithme calcule une capacité de remboursement théorique gigantesque.
Sans voir ce qui se passe vraiment derrière.
Exactement. Sans examiner la fragilité sous-jacente ou la pression psychologique. Les banques, elles sont éblouies par le titre de directeur. Elles vont accorder des marges de crédit colossales et approuver des hypothèques multiples sans même sourciller.
C'est dingue.
La source utilise une formule très évocatrice. Elle dit que parce que les revenus sont si élevés, les créanciers fournissent joyeusement, je cite, « plus de cordes pour se pendre ». Le marché du crédit annule toutes les limites naturelles qui protègent habituellement les classes moyennes.
C'est vertigineux quand on y pense. Ça veut dire qu'on a affaire à un individu qui anime des réunions stratégiques à forts enjeux la journée et qui, la nuit, jongle avec des cartes de crédit au plafond pour éviter que tout s'effondre.
C'est exactement ça. La double vie financière.
Le grand écart psychologique entre l'image publique de puissance et cette réalité privée catastrophique, ça doit être d'une violence inouïe.
Absolument. Et ça génère un état de dissonance cognitive extrêmement aigu. D'un côté, vous avez l'autorité professionnelle et le statut social. De l'autre, le bilan personnel est un champ de mine.
Ce qui amène inévitablement de la honte.
Du toxique, oui. Cette honte isole complètement la personne. C'est impossible d'avouer à ses associés, et parfois même à son conjoint, qu'on gagne un quart de million par an, mais qu'on panique à la vue d'une simple facture de garagiste.
Ah, waouh ! C'est vrai que la clandestinité financière, ça doit agir comme un accélérateur de détresse.
Complètement. La personne encaisse cette terreur dans un isolement complet, uniquement pour ne pas fissurer la façade du martyr.
Et inévitablement, à force d'absorber tous les chocs en silence, la structure finit par se briser. Ce qui nous amène au cœur conceptuel de notre analyse, à la métaphore de la source.
Le fameux point de rupture.
Bon, c'est là que ça devient vraiment intéressant. On connaît tous la consigne de sécurité dans les avions. En cas de dépressurisation, il faut mettre son propre masque à oxygène avant d'aider les autres, enfants inclus.
C'est la base, oui.
Et ce n'est pas un conseil bien-être pour se chouchouter, hein. C'est une loi fondamentale de survie. Si on s'évanouit, on ne sert plus à rien. Et le texte applique ça de façon très vaste.
L'auteur transpose cette règle avec une froideur chirurgicale à l'économie familiale. Le pourvoyeur principal, ce cadre épuisé, il est le masque à oxygène. Il est l'infrastructure même du foyer.
Donc s'il tombe, tout tombe.
Exactement. Si ce point de défaillance unique s'effondre sous le poids de la dette et du stress, c'est tout le système qu'il tentait de protéger qui est détruit. L'effet domino est immédiat.
Que ce soit un problème de santé ou autre chose.
Oui, s'il fait un arrêt cardiaque lié au stress, ou si une dépression l'empêche de maintenir la cadence exigée par son poste, le flux de revenus s'évapore du jour au lendemain. La prétendue sécurité qu'il essayait de bâtir se révèle être un château de cartes.
C'est un renversement complet de perspective, en fait. Établir des limites fermes pour se protéger, ça n'a rien d'égoïste. Ce n'est pas de la vanité.
C'est très exactement une obligation structurelle, ouais.
Une obligation de survie, quoi.
La source parle de préservation des actifs, le concept d'asset preservation. Dans l'économie de cette famille, le parent martyr constitue l'actif principal, la machine à générer des ressources.
Et on doit protéger la machine.
Voilà, protéger son temps de récupération, préserver sa santé mentale et son intégrité financière, ce n'est en aucun cas un luxe, c'est une exigence opérationnelle non négociable. Sans la pérennité de la source de revenus, tout le reste n'est qu'une illusion.
Très bien. Sachant qu'il s'agit d'une exigence absolue, la question évidente pour ceux qui nous écoutent, c'est comment on passe de la théorie à la pratique ?
C'est le plus difficile, le passage à l'action.
Ouais. Comment un individu coincé dans ce complexe depuis des années parvient à désamorcer la bombe ?
La source propose un plan d'action exécutif, une vraie méthode pour reprendre l'autorité.
Et cela soulève une question cruciale concernant la posture mentale de départ. Pour changer, il faut cesser de voir les limites personnelles comme des caprices égoïstes.
Il faut les voir comment, alors ?
Il faut les traiter comme un auditeur d'entreprise traite la gestion des risques, en instaurant des contrôles de sécurité rigides et infranchissables pour éviter un désastre systémique.
D'accord. Et la source structure ça autour de trois piliers, c'est bien ça ?
Oui, trois piliers fondamentaux. Le tout premier, le plus urgent, c'est la mise en place de limites financières d'une étanchéité absolue.
En d'autres termes, il faut fermer définitivement le guichet automatique ouvert au public. Propre fondation d'abord.
Ce qui implique quoi, concrètement ?
Ça implique de liquider les dettes toxiques, de s'assurer que la résidence principale est hors de danger et de bâtir une vraie forteresse de liquidité. Il faut faire cela bien avant de cautionner le prêt d'un membre de la famille ou d'autoriser une dépense de prestige.
Le pilier central doit d'abord être inébranlable. C'est des maths pures.
Exactement, des maths pures.
Par contre, le deuxième pilier me pose un vrai problème de logique par rapport à ce qu'on vient juste de dire sur les dépenses de prestige. La source parle du sanctuaire exécutif.
Oui, c'est un concept fascinant.
Fascinant. N'entendez, elle donne l'exemple d'acheter ou de conserver un véhicule de grande qualité, statutaire, plutôt que de rouler dans une épave pour faire des économies. Mais n'est-ce pas la définition même de la superficialité ?
Je comprends la réaction, c'est très contre-intuitif.
Je veux dire, justifier l'achat d'un SUV haut de gamme en disant que c'est une nécessité psychologique pour gérer la pression, honnêtement, ça ressemble surtout à une belle rationalisation de privilégiés pour flamber, non ?
C'est une excellente objection et le piège serait effectivement de sombrer dans le narcissisme matériel. Mais il faut analyser ça sous l'angle de l'ingénierie psychologique. Le texte ne plaide absolument pas pour l'achat compulsif de symboles de richesse pour impressionner les voisins.
Alors, c'est quoi le but réel ?
Il démontre que les outils utilisés quotidiennement dans un contexte de haute pression opèrent comme des modérateurs de stress vitaux. Prenez un dirigeant qui gère des centaines d'employés et prend des décisions à plusieurs millions.
D'accord.
Ce trajet en voiture, ce n'est pas qu'un simple déplacement. C'est très souvent le seul environnement totalement isolé, silencieux et sous son contrôle strict de toute sa journée.
Ah, je vois. C'est une sorte de sas de décompression entre le bureau et la maison.
Voilà. Donc, se forcer à utiliser un véhicule dégradé et inconfortable simplement pour prouver qu'on est prêt à tous les sacrifices, c'est se priver volontairement d'un outil de régulation du stress qui est particulièrement efficace.
Ouais, on accélère l'usure de l'actif principal en faisant ça.
Exactement. Ces sanctuaires servent à préserver l'équilibre nerveux. Ce qui nous amène, logiquement, au troisième pilier, qui concerne lui aussi l'optimisation des ressources, mais sous l'angle du temps. La nécessité de déléguer et d'externaliser dans la sphère privée.
Oui, l'externalisation. Et là, le parallèle avec le monde de l'entreprise, il est d'une clarté redoutable.
Comment ça ?
Prenons un directeur de département. S'il fait face à une panne informatique complexe dans son service, il ne va pas essayer d'apprendre à coder le week-end pour régler le problème lui-même.
Sûrement pas. Il va appeler des experts.
Voilà, il va payer une équipe pour le faire, car son temps est plus précieux ailleurs. Pourtant, ce même cadre, englué dans le complexe du martyr, oublie complètement cette règle d'or dès qu'il rentre chez lui.
C'est un aveuglement qui est très symptomatique, en fait. Par exemple, s'il investit dans l'immobilier locatif personnel, il ira passer son dimanche soir à réparer une fuite de plomberie lui-même.
Au lieu de se reposer.
Ouais. Il refuse de payer des professionnels, souvent par un mélange de fierté mal placée et de culpabilité, considérant que payer pour se décharger de corvée, c'est de la paresse.
Alors que la rationalité économique démontre l'exact contraire. La source insiste lourdement là-dessus. Le taux horaire de la tranquillité d'esprit d'un professionnel à haut revenu dépasse largement, mais alors largement, le coût d'un gestionnaire immobilier ou d'un plombier.
C'est un calcul d'efficacité de base ?
Chaque heure passée à s'épuiser physiquement sur des tâches qui pourraient être déléguées, c'est une heure de récupération vitale qui est volée. Ça dégrade sa résilience globale. En payant pour libérer son temps, l'individu investit dans la durabilité de son propre système nerveux.
En maîtrisant ces trois piliers, donc les frontières financières, la préservation de sas de décompression et l'externalisation agressive, la personne cesse de subir sa vie.
Elle reprend les commandes.
Elle redevient gestionnaire compétent de sa propre existence, restaurant ainsi les marges de sécurité indispensables à son fonctionnement.
Ce qui, au final, modifie en profondeur la finalité de toute cette analyse. Parce que la justification perpétuelle de ce sacrifice, c'est presque toujours l'avenir des enfants. On se dit « on encaisse pour eux ».
C'est l'excuse numéro un, oui.
Mais la réalité cruelle exposée par nos sources, c'est qu'aucun enfant ne tire bénéfice de la présence d'un fantôme. Un foyer n'a aucun besoin d'un individu dévoré par l'anxiété, qui navigue à 1 mm du gouffre et qui porte la souffrance du monde en silence.
Ils ont besoin de quoi à la place, alors ?
Ce qu'ils requièrent véritablement, c'est une présence ancrée, solide, émotionnellement stable. Quelqu'un qui a l'énergie de les écouter et qui leur prouve par l'exemple qu'il est indispensable de savoir poser des limites.
C'est très juste. Et si l'on pousse cette réflexion à son terme, on aboutit à une perspective sur la transmission intergénérationnelle qui est particulièrement puissante.
C'est-à-dire ?
Eh bien, les enfants sont des observateurs implacables. Ils intériorisent les méthodes de survie qu'ils voient à la maison. En s'autorisant à appliquer une gestion des risques rigoureuse à sa propre vie, un parent enseigne implicitement à la génération suivante qu'elle aura, elle aussi, le droit fondamental de ne pas se laisser consumer par les autres.
C'est une belle façon de voir les choses.
Le refus du sacrifice toxique devient alors, paradoxalement, la manifestation la plus pure et la plus efficace d'amour parental dans notre économie moderne. Le vrai courage, ce n'est pas d'absorber la pression jusqu'à l'implosion totale.
Non, le vrai courage, c'est d'avoir l'audace d'admettre qu'on a besoin d'air.
Exactement. Avoir la lucidité de défier la glorification culturelle du sacrifice.
Eh bien, c'est une conclusion qui bouscule pas mal de certitudes. Pour quiconque reconnaît sa propre trajectoire ou celle d'un proche dans ce portrait, l'heure est peut-être venue de stopper les moteurs.
Il est plus que temps, oui.
Il est urgent d'arrêter de vouloir sauver l'ensemble des passagers alors que les voyants des réserves clignotent dans le rouge. Prenez une grande respiration, éloignez-vous du bord du précipice et accomplissez ce geste qui sauvera tout le système. Mettez enfin votre propre masque à oxygène.
C'est la seule façon de garder l'édifice debout.
Absolument. Merci d'avoir exploré tout ça avec moi aujourd'hui, c'était vraiment éclairant.
Mais si, c'était un vrai plaisir d'analyser ça en profondeur.
Et pour ceux qui nous écoutent, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse. Prenez soin de vous.